Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête. Nous sommes à Grand Contrôle. Nicolas qui m'accompagne aujourd'hui pour une émission spéciale post-élection européenne. Bonjour Nicolas.
Bonjour Casimir.
Nicolas, tu es journaliste et tu t'intéresses tout particulièrement à la question européenne.
Oui, c'est pour ça que je t'ai proposé de faire une émission sur les élections européennes.
Et puisqu'on est là maintenant, ça veut dire que j'ai accepté ta proposition, même si à la base l'Europe politique et institutionnelle, c'est pas ma passion, tu vois.
Ouais, laisse-moi 45 minutes et tu verras, tu vas trouver ça jouissif, jouissant.
J'espère bien. Aujourd'hui, je suis un peu perdu parce qu'il n'y a pas les mêmes personnes que d'habitude autour de la table et je pense que les auditeurs aussi sont perdus. Les chroniqueurs habituels ne sont pas là, mais ne vous inquiétez pas.
Effectivement, ils sont chez eux, ouais. Bon, on va les entendre sur des sonores, ils ne nous quittent pas totalement.
C'est ça, au fur et à mesure de l'émission, en fait, on va écouter des témoignages de nos chroniqueurs, Ruben, Carla, etc., sur ce qui s'est passé pendant les élections dans leur pays. Mais on n'est pas que deux autour de la table, Nicolas, puisque aujourd'hui, pour prendre du recul sur les élections européennes, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Préau, rédacteur en chef de Toute l'Europe. Bonjour Christophe Préau.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est Toute l'Europe ?
Toute l'Europe, c'est un site pédagogique d'information sur les questions européennes. Site non partisan. On n'est pas tant dans l'actualité. Alors, en ce moment, on est beaucoup dans l'actualité parce qu'effectivement, entre le Brexit et les élections européennes, on cale à l'actu. Mais sinon, on prend plutôt de la hauteur pour faire des dossiers, de la pédagogie et expliquer. Voilà, notre baseline, c'est mieux comprendre l'Europe.
Très bien. On est avec aussi Rémi Lauverrier, c'est ça ?
C'est ça, bonjour.
Donc tu es rédacteur, vous êtes rédacteur pour L'Autorayon. Alors c'est quoi L'Autorayon ?
Alors L'Autorayon, c'est un web magazine qui est publié par l'association Les Jeunes Européens, qui a été fondée en 2005, avec la particularité d'avoir une ligne éditoriale en faveur de la construction européenne.
Très bien. Des vrais spécialistes. Bonjour messieurs. Et nous accueillons aussi une personnalité politique, je vous l'avais dit que j'allais bafouiller, une personnalité politique avec Damien Carême d'Europe et l'écologie et les Verts. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes nouveau député européen et vous avez donc été élu, c'est ça,
oui.
Eurodéputé. Et on aura plein de questions et d'interrogations. On vous donnera principalement la parole à la fin de l'émission sur le dernier volet.
Puisque mais c'est la surprise quand même de ces élections, c'est quand même le score des Verts en Europe.
C'est ça.
Mais surtout en Europe de l'Ouest, on aura l'occasion d'en parler.
Et puis c'était l'occasion en fait, puisque aujourd'hui, à Grand Contrôle, le Grand Contrôle s'associe à Reporter pour plein d'animations. D'ailleurs, venez à Grand Contrôle, c'est super, je fais un peu de promotion. Mais avant tout ça, Nicolas, on va débroussailler un peu toutes les informations qui nous sont parvenues depuis les élections. Alors, 751 eurodéputés. Bientôt 705 avec le Brexit, si j'ai bien compris. Mais aussi 421 millions d'électeurs. Potentiel.
Potentiel, oui.
Potentiel, on est d'accord. Les chiffres ont inondé les élections européennes. Forcément, à 28, c'est 28 fois plus compliqué et on est 28 fois plus perdu. Mais dis-nous quelques mots de ces campagnes, alors.
Oui, alors la donnée qui a le plus marqué les observateurs, c'est la participation. Elle a dépassé la barre des 50% dans l'ensemble de l'Union européenne pour s'établir précisément à 50,95%. C'est du jamais vu depuis 1994, donc il y a 25 ans. À l'époque, 56,67% des Européens s'étaient déplacés, mais on était alors beaucoup moins nombreux, on était que 12 à l'époque. Petit clin d'œil de l'histoire, en 1994, nous étions 3 ans après la chute du bloc communiste. En 2019, nous sommes 3 ans après le vote en faveur du Brexit. À l'époque, donc, on rêvait d'Europe, désormais, on souhaite la quitter.
Je ne souhaite pas tous la quitter, Nicolas. À noter des grosses différences selon les pays, quand même.
Oui, plus de 80% de votants au Luxembourg et en Belgique. Chez nos voisins belges, c'est même 88,47% des électeurs qui se sont exprimés. Alors, on pourrait se dire comme ça que c'est un exemple parfait, mais il faut aussi noter que les Belges et les Luxembourgeois sont obligés d'aller voter selon leur loi.
C'est obligatoire.
Oui, c'est donc, ça. Dans sinon, par exemple, en Belgique, il y a des amendes.
Ah, d'accord.
Et donc, dans les pays... Ça coûte cher de rester sur le canapé le dimanche.
Et dans les pays où c'est pas obligatoire, alors on est allé voter ou pas?
Alors, ça dépend. En Croatie ou au Portugal, les votants ne représentaient que 30% du corps électoral. Le plus mauvais élève, c'est la Slovaquie. Seulement 22,74% de votants. Mais nos amis slovaques peuvent quand même se vanter d'une participation en hausse de 74% par rapport à il y a 5 ans. En 2014, seuls 13% des Slovaques avaient voté.
Ok, ça fait beaucoup de chiffres. J'ai tout noté. Si on jette un coup d'œil maintenant au score précisément des partis dans chacun des pays, Nicolas, qu'est-ce que ça donne?
Oui, alors j'ai fouillé parce que beaucoup de partis, 28 pays, beaucoup de partis à chaque fois dans chacun des pays. Le parti qui réalise le meilleur score, c'est le Malta Labour Party. 54% des Maltais ont voté pour ce parti. Autre score très élevé à l'est, celui du PiS en Pologne, 45,38% des voix. Et le Fidesz du Hongrois Viktor Orban, 54,3% aussi des votants pour sa liste, 52% pour sa liste. Comme quoi, on peut le résumer peut-être un peu trivialement ainsi, mais réduire la liberté d'expression, étouffer les oppositions, ça peut servir.
Eh bien, toi, c'est très bien tout ça. Vous avez des interventions par rapport à tous ces chiffres? N'hésitez pas les uns les autres, vous pouvez nous interrompre à tout moment.
Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a marqué peut-être là-dedans? On a beaucoup parlé de l'abstention. Est-ce qu'on peut se féliciter vraiment de 50% de votants?
Alors, ça a vraiment été le chiffre qui a marqué, parce qu'en plus, c'était à l'encontre des sondages. Même si nous, à toute l'Europe, puisqu'on avait beaucoup de consultations depuis un long moment et qu'on a presque multiplié par 3 nos consultations, on a vu concrètement que les citoyens français étaient intéressés au sujet européen. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement la participation à la hausse. Depuis 1994, c'est la première fois que la participation repart à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Après, ce que l'on peut noter aussi, c'est effectivement la poussée des Verts, plutôt en Europe occidentale, liée à un vote des jeunes assez fort. Je pense que le mouvement autour de Greta Thunberg a aussi mobilisé les jeunes, donc plus en Europe occidentale. Ce qui est important aussi à noter, c'est... On n'a pas eu aussi non plus la marée que certains annonçaient sur les votes extrémistes et les partis plus europhobes que eurosceptiques. Finalement, évidemment, ils augmentent, mais ça se tasse un peu. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Donc là, c'est peut-être les trois grandes tendances que l'on peut retenir de ces élections.
Greta Thunberg, on rappelle, c'est
la jeune
Suédoise qui avait son panneau pour dire qu'elle n'irait plus à l'école tant qu'on ne changerait pas le monde. C'est ça.
Elle a initié ce mouvement avec les jeunes collégiens qui marchent
pour
la planète. Oui, tout à fait. Autre élément, excusez-moi d'avoir un petit peu
J'aime bien les bavards.
Précipité. Il y a aussi un autre élément essentiel, c'est que pour la première fois depuis l'élection européenne, ce ne sont plus les deux partis, c'est-à-dire les socialistes et démocrates et le PPE, qui sont la droite conservatrice, qui sont majoritaires au Parlement européen. On a aujourd'hui un Parlement très éclaté, ce qui va demander effectivement encore plus dans la notion de compromis, de pouvoir s'entendre sur des programmes communs pour faire passer les directives. On a aujourd'hui un Parlement très éclaté entre le PPE, qui est donc la droite, qui y a aussi les socialistes et démocrates. Ce qu'on appelait avant les libéraux, mais maintenant qui s'appelle Renew Europe, c'est-à-dire l'Europe renouvelée ou nouvelle, même si, a priori, il est interdit de le traduire en français. Et puis aussi les Verts, aujourd'hui, qui vont avoir un poids plus important et qui, donc, je pense, influeront aussi largement dans l'Europe écologique et devront aussi, eux, assumer, mais la Commission assumer l'espoir que portent les jeunes sur une Europe un petit peu plus verte.
Ça pose plein de questions, tout ça, en tout cas. Voilà. On va écouter, vous avez des interventions, on écoute tout de suite le premier extrait. On part en Pologne avec Kasia qui va nous témoigner. Alors, on ne part pas vraiment en Pologne, parce qu'elle est polonaise, mais elle était à Paris quand elle fait l'enregistrement. On écoute tout de suite Kasia.
Nouvelles élections et une nouvelle victoire pour Droit et Justice, les partis classés extrême droite au pouvoir en Pologne depuis 2015. Et cela malgré tous les efforts des partis de l'opposition. À l'occasion des élections européennes, leurs leaders ont mis toutes les chances de leur côté et se sont présentés comme la coalition européenne. En vain. Un seul point positif, une forte participation électorale, 43% des Polonais se sont rendus aux urnes. Par contre, en 2014, c'était seulement 24%. Si droit et justice restaient depuis le début jusqu'à la fin dans la tête des sondages, un événement aura pu tout faire basculer. En plein campagne électorale, un documentaire inédit, seulement ne l'est dit à personne, sur les abus sexuels dans l'Église catholique, en Pologne, crée le choc. Face au record des audiences, aujourd'hui 22 millions de vues sur YouTube, les gouvernements qui font normalement tout pour plaire aux dirigeants religieux étaient forcés à réagir et vite. Le ministère de la Justice a donc annoncé l'alourdissement des peines pour pédophilie qui devra être voté très prochainement. Quant à l'Église, elle a fait son mea culpa, mais pas sûr que cela suffise, car dans ces genres de problèmes, l'épiscopat a plutôt tendance à cacher la poussière sous les tapis. En tout cas, le documentaire a été pris par l'électorat de Droit et Justice comme une attaque contre l'Église pour changer la donne des élections. Et je pense que cela a mobilisé encore plus les électeurs à aller voter et défendre les valeurs conservatrices.
C'était donc Cassia qui intervient souvent à la radio. Nicolas, je te reprends, oui, je te laisse prendre le lead.
Oui, une question pour Rémi Loverier du Torillon. Quand on voit à l'est de l'Europe le PiS qui fait plus de 45%, mais aussi Viktor Orban qui fait 50%, on sait que c'est en tout cas en France et on va dire à l'ouest de l'Europe des partis très critiqués, des personnages politiques très critiqués. Comment on peut expliquer qu'ils font de si bons scores, ils font les meilleurs scores européens? Est-ce que ça veut dire que finalement on les critique, mais pour les Polonais et pour les Hongrois, ils font bien le boulot? Ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, les Polonais et les Hongrois, et qu'ils sont un peu, on va dire, forcés, ça serait abusé, mais de voter pour eux?
Alors, tout d'abord, j'ai envie de rappeler que le sentiment d'attachement à l'Union européenne dans ces pays-là, de la part des citoyens, reste quand même très fort. Donc quand on a des scores élevés de ces partis-là, ça ne signifie pas nécessairement qu'ils ont envie de quitter l'Union européenne, parce qu'ils bénéficient à plein des transferts d'argent. Après, ces partis-là, effectivement, ils se dégagent et ils ont des si bons scores en raison des enjeux nationaux et de la réussite de ces partis-là, dans une certaine mesure, à répondre aux attentes de leurs citoyens.
D'accord. Damien Carême, j'avais peut-être une question pour vous, puisqu'on a déjà abordé le sujet sur la question écologique. On voit que dans l'Europe de l'Est, il y a très peu de votes verts, voire quasiment aucun. Est-ce que, selon vous, le motif écologique peut être un motif de scission entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui n'aurait pas les mêmes priorités pour le futur ?
L'avenir nous le dira. Je peux pas préjuger de ce que donneront les discussions qui ont démarré hier. Il n'y a pas que dans l'Europe de l'Est, il y a l'Europe du Sud. Hein, dans l'Italie et en Espagne, il n'y a pas non plus d'élus écolos en Italie. Donc ouais. ça pose aussi question. Il y a tout un arc là sur lequel il faut qu'on travaille. Bon, alors, ce qui se passe avec le PiS en Pologne, que je connais un peu, parce qu'on a une ville jumelée, la ville de Grande-Synthe, on est jumelé avec une ville polonaise, et on voit bien le poids de... Effectivement, vous parliez de dictature, ou presque, de tout à l'heure, en parlant du PiS, et de l'expression que ça laisse dans le pays.
En tout cas, c'est comme ça qu'on les voit ici, à l'Ouest.
Le poids de l'Église, qui est extrêmement important en Pologne, et je pense que ça doit être la même chose en Hongrie. Enfin, le vote... Ça, c'est des enjeux nationaux plutôt que des enjeux européens qui sont derrière. Et comme chez nous, on a eu quand même du mal à imposer un vrai débat européen chez nous. Pendant longtemps, ça s'est joué un affrontement Macron-Le Pen et on parlait très peu d'Europe finalement. Et moi, je reste persuadé qu'effectivement, les gens sont attachés quand même à l'Europe et que quand on repose le débat vraiment européen, bah, du coup, il y a un engouement et peut-être que vers la fin de campagne, c'est ce qui a fait qu'on arrive à ces taux de participation chez nous en augmentation. Et c'est vrai, effectivement, dans l'Europe du Sud et un peu moins dans l'Est. C'est des terres de mission. Il va falloir qu'on aide une émergence là-bas parce qu'il y a des enjeux. En Pologne, il y a un sujet emblématique qui est la forêt. Alors j'ai oublié le nom de la ville, mais qui est une des rares forêts primaires en Europe qui aujourd'hui est mise à mal par le gouvernement polonais.
Vous y croyez vraiment une implantation de l'environnement, en tout cas de la conscience écologique en Europe de l'Est?
Ah, mais je crois qu'il n'y a pas que la conscience écologique. Il y a aussi la conscience par rapport à l'égalité des droits. On a vu quand même le maire de Gland se faire tuer sur scène parce qu'il était ouvert à l'homophobie, etc. Et que voilà, il y a des vrais enjeux, attention.
Et ça intéresse les Polonais et les Hongrois concrètement, selon vous Même si j'imagine que vous n'êtes pas un expert de la société civile polonaise ni hongroise.
Non, mais vraiment, la Pologne, en fait, leur problème, c'est l'emploi, c'est la difficulté sociale. Et tout se traduit à travers cette difficulté sociale. Et quelle réponse on a ? Il n'y a qu'à voir le nombre de Polonais qui travaillent en Grande-Bretagne avec cette menace, en cas de Brexit d'ailleurs, de ce que ces Polonais, c'était un des enjeux de la campagne du Brexit, est-ce que ces Polonais soient renvoyés ou on leur interdise de travailler en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment, il y a une vraie préoccupation sociale en Pologne. Moi, pour avoir discuté avec des familles, certains regrettaient presque le communisme, compte tenu des factures qu'ils avaient d'aujourd'hui d'eau, d'énergie derrière, alors qu'elle était gratuite avant, à l'époque du communisme. Donc attention aux bascules de ces pays.
Je pense qu'il faut aussi analyser ces résultats. Parce que nous, dans nos pays occidentaux, on a toujours un œil un peu troublé par rapport à ce que nous, on vit aussi. Mais il faut aussi se dire que dans ce qu'on appelle encore peut-être les pays de l'ancien bloc de l'Est, on est quand même dans des démocraties assez jeunes, il faut quand même se le dire. Donc il n'y a pas des taux de participation aux élections non plus européennes, parce que effectivement, je pense que dans beaucoup de générations, c'est quand même ancré le fait que bon, ça servait à rien de voter. Donc ouais. Aujourd'hui, on a toujours cette retenue-là, je pense. Mais quand on le voit dans les eurobaromètres, il y a quand même un attachement à l'Union européenne qui est forte. D'abord parce qu'ils savent aussi qu'ils vont rattraper leur retard économique grâce à l'Union européenne, grâce aux fonds structurels, à la politique de cohésion qui leur permet aussi de se développer. Et puis de s'ouvrir, le marché leur permet aussi d'avancer, comme l'un de nous le disait autour de cette table. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Après, on parlait spécifiquement de la Pologne, bon, sans parler de politique, mais sur les enjeux environnementaux, il y a des enjeux forts, notamment de transition énergétique, puisque la Pologne produit de l'énergie à travers le charbon et qui est vraiment très, très polluant. Donc là, il y a quelque chose à faire avec les Polonais. Je pense que...
Il faut les accompagner dans cette transition.
On aura beaucoup de sonores, donc on aura beaucoup de réactions à faire. On va enchaîner tout de suite avec le prochain témoin, avec Denis, qui est croate et qui va nous parler de chez lui.
Il y a un parti en Croatie qui était une ONG, JVZID, Bouclier Humain, et qui donc défendait les personnes et appelait ses militants à se mettre devant les maisons des personnes qui n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes et donc qui risquaient d'être expulsées de chez elles. C'est devenu ensuite un parti politique, qui aux dernières élections présidentielles a même atteint 16%, ce qui était troisième donc, par rapport aux résultats. Et lors des dernières élections européennes, en fait, il est arrivé une sorte de catastrophe. Il y a eu une dispute entre les membres du parti pour savoir qui allait partir au Parlement, qui allait partir au Parlement européen, parce qu'en fait, ils décident sur la liste qui ils vont mettre. Et l'un des députés du Parlement européen, Bunyac, a estimé que, en fait, il y avait un dictateur dans le parti, c'était la femme du président du parti. Et donc c'est un parti assez curieux, puisqu'il est, par exemple, certains de ses membres sont contre la vaccination, contre l'argent, contre le crédit. C'est un parti antimondialiste. C'est un peu une sorte d'électron libre. Alors, ils ont du succès parce que une partie de la Croatie qui pense que toute la classe politique est corrompue. Et donc quand on voit cette affaire où en fait ça serait comme une forme de secte avec une espèce de gourou qui déciderait de tout avec sa femme, enfin, c'est quelque chose de très surprenant. Et donc toutes les personnes de ce parti sont un peu des ovnis.
C'était donc Denis qui nous a parlé de ce micro-parti. Nicolas, tu veux relancer par rapport à ce...
Par rapport à la Croatie, ce qui est intéressant de voir, en tout cas, on n'est pas habitué forcément en France, mais on l'a vu dans les élections européennes avec le parti animaliste qui a fait 2,5%. On voit tous ces partis un peu étranges dans la mouvance du mouvement 5 étoiles. Je dis étrange au sens traditionnel des partis. On voit que dans les élections européennes, il y en a beaucoup plus. Est-ce que c'est aussi le signe, je vous pose une question très rapidement, d'une société civile qui se prend en main elle-même et qui décide d'elle-même de décider de la politique à mettre en place, ou alors ce sont des épiphénomènes, Damien Carême?
Je suis pas politiste, donc je sais pas si c'est un épiphénomène. On verra bien dans l'avenir. Je pense que s'il y a un tel éclatement quand même de l'offre et des partis qui se présentent, c'est peut-être parce qu'ils se retrouvent pas suffisamment dans l'offre qui est faite dans quelques-uns. Moi, je regrette le parti animaliste parce qu'on a quand même des choses très communes.
Ils vont siéger avec vous d'ailleurs au Parlement européen, avec les Verts, le parti animaliste. Ah non, il y a un élu en Allemagne, je crois.
On a les pirates qui nous ont rejoints, mais les animalistes, je sais pas.
Non, en France,
si
non.
Non, en France, c'est sûr. Donc voilà, je pense que c'est aussi de la responsabilité de ce qu'il faut construire maintenant, quelque chose où tout le monde s'y retrouve. Vraiment, les combats des animalistes et les nôtres sont les mêmes, comme l'éparpillement des sujets écologistes, les vrais sujets, les actes écologistes. Voilà, il y a rassemblé, on voit ça aussi, 34 listes ici, mais ça a été la même chose en Allemagne, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait
un peu plus.
Un peu plus, ouais, voilà, donc c'est, ça devient.
Oui, c'est ça, il y a un éclatement potentiel des voix. D'autres réactions par rapport à ça? Oui, Rémi.
Alors, juste pour rappeler que les élections européennes, elles se déroulent à la proportionnelle, et donc c'est un mode d'élection qui est très favorable
à cette... C'est un micro-parti qui a quand même un siège.
Alors, rappelons justement là-dessus sur la proportionnelle, c'est que les règles ne sont pas les mêmes selon les pays. En France, il y a un seuil de 5%, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Et on peut s'interroger éventuellement sur une harmonisation, au moins pour les élections européennes, des règles des élections. Est-ce que ce serait une bonne idée, ça aussi, pour... On parle toujours d'élections européennes qui est trop nationaliste, mais en même temps, les règles sont aussi nationales.
Après, les règles, elles restent justement nationales. Ça reste encore des prérogatives de chaque État. Donc ça, je pense, pour que ça avance, il faudra quand même... Enfin, d'abord, il faut que chaque pays se mette autour de la table et le décide. Mais la proportionnelle, je pense, c'est un bon système, me semble-t-il. Bon, certes, en France, alors finalement, il n'y a que six partis qui vont siéger au
Parlement européen.
Au Parlement européen. Mais... bon, pour moi, ça représente aussi quand même le fait que la vie politique aujourd'hui, elle est éclatée. Parce que je pense que les citoyens ont le sentiment qu'on arrive peut-être au bout d'un système, ce qui fait que comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne se retrouvent pas dans les partis traditionnels. Donc il y a beaucoup d'alternatives qui se mettent en place. Et puis spécifiquement pour les pays de l'Est, il y a un mot qu'il faut relever dans le témoignage de notre ami, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, Denis. Mais il parle à un moment de corruption. Donc comment on le disait tout à l'heure, on est dans des jeunes démocraties, peut-être. La corruption est quand même assez forte en ce moment. Il y a beaucoup d'affaires dans les pays de l'Est.
C'est ça, on en reparlera avec le témoignage romain qu'on écoutera tout à l'heure. On va passer au prochain témoignage maintenant avec l'Italie et Carla qui nous fait un témoignage amusant. Vous allez voir.
Je suis allée voter ici à Paris à l'Institut de culture italienne, notre siège d'Italien à l'étranger. En Italie, le vote, ça marche pas comme chez vous. On a un bulletin avec tous les symboles de partis imprimés par-dessus. On rentre dans les KGB pour voter avec le bulletin et un crayon. Et on doit marquer notre préférence avec une croix. Donc, on a le droit d'écrire dans notre KGB d'électeur. D'où parfois la fantaisie de certains bulletins annulés en Italie. Exemple classique, une tranche de saucisson dans le bulletin et par-dessus écrit « Vi siete mangiati tutto, mangiatevi pure questo ». Vous avez tout bouffé, dans le sens de l'argent public, mangez ça aussi. Au-delà des plaisanteries, le crayon sert aussi à marquer si on a un candidat de préférence. Donc, quand tu fais la queue pour voter, il y a toute la liste de tous les candidats, pour t'en rappeler les prénoms. J'ai fait la queue et pour faire passer le temps, j'ai lu les prénoms, Monsieur Spiaggia, Monsieur Cartellino, Monsieur Mele, Monsieur Cavalletto, Monsieur Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini, Di Caio, né à Buenos Aires, Argentine, comme par hasard. Donc, dans une liste d'extrême droite, comme par hasard. Je ne vais pas vous donner mes avis politiques, qui sont certes privés et intimes, mais j'ai une question. Se présenter en politique avec un prénom comme ça, ce n'est pas un tout petit peu bizarre ?
D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, puisqu'il s'agit vraiment du candidat Mussolini, petit-fils du dictateur italien du début du XXe siècle, il y a aussi une députée italienne qui s'appelait Mussolini, qui était elle aussi de la famille Mussolini, qui était députée européenne jusqu'en 2019, là aujourd'hui, qui s'est présenté. Donc les Mussolini ont tenté d'envahir, on va dire, entre guillemets, le Parlement européen. Pour rebondir là-dessus, peut-être parler de Matteo Salvini, sans faire de comparaison hasardeuse. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Matteo Salvini est l'homme fort des partis, on va dire, eurocritiques, europhobes, eurosceptiques en Europe, devant Marine Le Pen, qui l'aurait remplacé, selon vous? Quand on voit ce groupe qui a été créé cette semaine, c'est lui qui a le plus d'eurodéputés, c'est lui qui a la présidence du groupe. Est-ce que c'est lui l'homme fort aujourd'hui, Christophe Préau et Rémi Loverier?
L'homme fort, je sais pas, mais en tout cas, l'homme fort de quoi ? Parce que quand on voit les extrêmes droites au Parlement européen, ils sont absolument pas unis. Donc si Salvini est un homme fort, c'est l'homme fort de son parti et ça s'arrête là. On voit des désaccords, notamment avec justement les leaders polonais ou hongrois qui n'ont pas du tout les mêmes visions et qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Alors que Viktor Orban en Hongrie, par exemple, est assez libéral, Kaczynski est beaucoup plus préoccupé par la menace du voisin russe. Donc, non, je voulais rappeler par rapport au nom de Mussolini, en tout cas, que l'Union européenne, c'est aussi la plus grande démocratie du monde. Et que, peu importe son prénom, tout le monde a le droit de se présenter aux élections européennes.
Voilà, c'est vrai que celle qui était députée européenne était, je ne me rappelle plus de son prénom, excusez-moi, mais Madame Mussolini était du parti PPE, de Forza Italia, de Silvio Berlusconi. En revanche, le petit-fils qui a voulu se faire élire là, en 2019, lui avait vraiment des idées un peu nauséabondes en Italie.
Concernant les partis, il va falloir aussi qu'on revoie un peu notre vocabulaire, parce qu'on ne sait plus trop entre les eurosceptiques, les souverainistes, les eurosceptiques, les europhobes. Il faut savoir, effectivement, aujourd'hui, dans cet environnement-là, avant le Brexit, il y a 173 eurodéputés, dont les 29 de Nigel Farage, du parti Brexit Party, qui donc devraient quitter cet environnement lorsqu'il y aura le Brexit. Mais... effectivement, ils sont quand même très divers et ils n'arrivent pas à se mettre à s'associer ensemble. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je veux dire, ils n'ont pas le poids nécessaire qui permettrait d'influer sur toutes les décisions.
Ils ne peuvent pas bloquer le système.
Ils ne peuvent pas bloquer le système aujourd'hui, c'est impossible. Et c'était le rêve de Marine Le Pen et de Salvini de pouvoir créer un grand groupe. Donc ils ont lancé ce nouveau groupe qui s'appelle Identité-Démocratie.
Identité-Démocratie.
Ouais. Ils sont 73 aujourd'hui, me semble-t-il.
Juste en dessous des Verts. Du coup, pour la symbolique, ils sont 2 euros députés en dessous. Oui, ça changera tous les jours.
En ce moment, ça bouge tous les jours.
Mais malgré... aujourd'hui, ça bouge tous les jours, effectivement. Mais je veux dire,
pourquoi ça bouge toujours ? Excusez-moi.
Parce qu'il y a des gens qui rejoignent le groupe.
D'accord, OK.
Qui ne savent pas où se mettre et puis qu'à un moment, rejoignent un groupe ou l'autre. On est à 79 aussi.
D'accord, OK. Il y a des alliances qui se forment en ce moment.
Rien n'est fixe.
Il y a des élus non inscrits, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc pour l'instant, ils réfléchissent. Et puis, ils sont plus à gauche. Après, ils sont plutôt avec les Verts.
Comment ça se passe, ces négociations, alors ? Enfin, c'est peut-être une question. C'est des négociations d'ailleurs ou comment ça se passe cette coordination pour créer des alliances au sein du Parlement européen ? Vraiment, c'est juste parce que je me dis si certains s'allient avec d'autres partis avec lesquels ils n'étaient pas avant la campagne.
Par exemple, prenons juste ce qui vient de se passer avec Identité et Démocratie. On s'entend, chacun s'entend, ensemble ils s'entendent sur une sorte de programme commun qui fait qu'on défend les mêmes idées.
Directrices.
Et avec ça, vous allez ensuite, vous êtes fort et vous allez voir d'autres partis. Qui vous permettent de rallier des eurodéputés.
Oh, okay.
Ce qui permet aujourd'hui, peut-être les Verts ont rallié aussi quelques-uns, parce que vous étiez 67 ou 8, et maintenant, il y en a 72 ou 13 ou 14 environ, je crois, c'est ça. Donc,
jeudi dernier, 77 ou 78, je crois.
Alors, aujourd'hui, Parlement européen, parce que le Parlement européen décompte chaque jour, vous seriez 75, après on verra lors de la première session. La première session, il faut peut-être expliquer le calendrier qui va arriver, la première session parlementaire et qui arrêtera du coup les groupes, c'est entre le 2 et le 4 juillet à Strasbourg. Donc on saura précisément à ce moment-là. Mais bon, les choses sont à peu près figées aujourd'hui quand même.
D'accord, plus ou moins.
Après, pendant la mandature, pendant les 5 ans, il peut de toute façon y avoir
l'ancien groupe de Marine Le Pen, au début, était fort de je ne sais plus combien d'eurodéputés, mais ils avaient perdu 50% quasiment de leur groupe au cours des 4 années de mandat depuis la date.
Parce que pour bien
création.
Expliquer quand même dans l'application après des lois et comment. Donc évidemment, la commission à l'initiative. Mais au Parlement européen, ça ne fonctionne pas comme chez nous. Il y a un président qui est élu, ensuite des législatives qui lui donnent la majorité. Donc après, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez beau voter contre, quoi qu'il arrive, si le président a la majorité des députés, il peut faire passer les lois. Alors qu'au Parlement, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de compromis. Il faut faire des alliances constamment. Et on peut, même si on n'est pas un groupe très fort, peut-être les Verts, qui aujourd'hui la quatrième force politique au Parlement, on peut quand même faire passer des lois très liées à l'environnement, parce que on va rallier des eurodéputés du PPE, socialistes et démocrates.
C'est ce qui
voilà l'objet.
passé dans la dernière mandature. On était 51 verts, eurodéputés verts sur 751, donc pas nombreux. Et on a quand même obtenu l'interdiction de la pêche électrique, la protection des données individuelles, la protection des lanceurs d'alerte. Ils sont partis du groupe des Verts qui sont allés gagner, député après député, des rapprochements. Ouais.
L'interdiction des plastiques à usage unique aussi.
Voilà, aussi, mais il y en a quelques-uns, j'en ai pris deux ou trois, mais il y en a quelques-unes. C'est plus facile quand vous faites partie d'une majorité parce que vous pouvez vous entendre peut-être sur un programme global, mais si vous êtes quand même dans la minorité,
idées fortes,
vous pouvez aller vous battre sur
très convaincant. Peut-être les Verts seront majoritaires à eux tout seuls, on verra. Peut-être.
On va passer au prochain.
C'est notre objectif.
On va passer au prochain témoignage de Joseph, qui est un témoignage anglais. On écoute tout de suite.
Et ben voilà. Contre toute attente, les élections européennes d'outre-Manche ont finalement eu lieu. Oui, le Royaume-Uni a perdu sa course contre la montre, et donc les électeurs britanniques s'est rendu finalement aux urnes il y a 3 semaines. La grande histoire a été celle du parti du Brexit qui, après seulement 4 mois d'existence, a fini en tête du scrutin avec 29 députés. Mais si l'Europe est une fête, Nigel Farage n'est certainement pas invité, et donc je vais parler plutôt de quelqu'un qui serait tout probablement l'ambianceur de la soirée. Majid Majid, l'ancien Lord Mayor du Sheffield, a été élu eurodéputé écologiste. Un réfugié somalien qui est venu en Angleterre à l'âge de 5 ans, fuyant la Somalie en guerre, Majid était le premier musulman élu au poste de Lord Mayor de Sheffield, dans le Yorkshire, et aussi le premier provenant des Verts. Pendant son mandat d'un an, il a notamment banni le président Trump de la ville. Et il a aussi monté des affiches déclarant ses 10 commandements pour Sheffield, qui comprenaient « ne sois pas un con » et « paie toujours sa tournée ». Il est maintenant parmi 7 députés écologistes britanniques, étant le tout premier du Yorkshire et Humber. Connu pour son t-shirt portant le slogan « Des migrants rendent la Bretagne plus grande », il a donné un discours de réception dans lequel il a parlé d'une politique d'espoir, de rester dans l'Union européenne et de protéger les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Il a donné un message à Farage, Salvini et Marine Le Pen, disant que la politique de peur va terminer dans la plus belle de l'histoire. Mais même si la vague verte a également touché l'outre-Manche, il y a toujours la question de la durée du mandat de Majid et de ses nouveaux collègues. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est actuellement planifiée pour le jour de Halloween.
Eh oui, le hasard fait bien les choses parfois.
Enfin, si ça se fait, puisque c'est ça aussi la grande discussion. Et je voulais vous poser peut-être une question sur le sur le Brexit, puisque ces eurodéputés devraient rester jusqu'au 31 octobre. Aujourd'hui, on est encore dans le flou, plus de 3 ans après le vote. On ne sait pas s'il va y avoir finalement ce deal le 31 octobre. Il pourrait être encore repoussé. On ne sait pas s'il va être soft, hard. Il n'y a plus de Premier ministre aujourd'hui en Grande-Bretagne. Boris Johnson, qui n'est quand même pas le partisan d'une solution douce, qui devrait être élu normalement la semaine prochaine Premier ministre. Mais avec la politique britannique, on n'est pas à l'abri de surprises. Votre sentiment sur ce flou? Est-ce qu'on pourra avoir un no-Brexit pour commencer cette nouvelle mandature au Parlement européen? Enfin, je veux dire un no-deal. Rémi Le Verrier, est-ce que vous pensez que c'est encore possible ou encore plus possible aujourd'hui?
Alors, je m'avance plus trop sur le Brexit parce que même moi, j'y comprends plus grand-chose. C'est toujours. En fait, le plus dommage, c'est pour les députés des autres pays qui, eux, veulent continuer l'aventure ensemble et qui ont été élus et qui se retrouvent dans une situation de surgelé, comme ça a été dit en France, où ils pourraient être au Parlement européen et faire avancer des sujets. Et ils le peuvent pas justement parce que.
Vous parlez des eurodéputés qui arriveront français, qui arriveront au Parlement européen une fois le Brexit acté.
Français et de tous les autres pays qui reprendront les sièges des députés britanniques. Donc c'est vrai qu'on peut souhaiter que la situation se clarifie en tout cas au plus vite pour justement avoir un Parlement européen qui soit en mesure de mener à bien des politiques européennes pour l'ensemble des citoyens.
Ça a été mis sous le tapis là pendant quelques semaines le Brexit, mais la situation a-t-elle évolué ou on est toujours vous comprenez ce que je veux dire?
Le Brexit évidemment a été un petit peu sorti de l'actualité en raison des élections, mais donc là effectivement la semaine prochaine c'est l'anniversaire, c'est les 3 ans du référendum au Royaume-Uni. Pour vous dire,
on n'aurait jamais imaginé
pour vous dire combien on a avancé quoi. Donc Il y a un petit peu de flou, effectivement, parce que Theresa May, après avoir présenté 4 fois devant ses députés...
Vous dites un petit peu de flou.
un accord de sortie avec l'Union européenne qui a été refusé, elle a fini par démissionner, ce qui me semblait être la voie quand même la plus raisonnable. Donc aujourd'hui, il y a une procédure pour une mise en place et une élection d'un nouveau président, enfin un nouveau chef de parti des conservateurs qui sera Premier ministre. Donc a priori, ça serait Boris Johnson, normalement d'ici fin juillet. Mais effectivement, lui est plutôt partisan d'un Brexit assez dur. Donc même s'il y a 3 ans, il a aussi longuement hésité à savoir s'il était pour le Remain ou pour la sortie de l'Union européenne. Mais politiquement, il a choisi le Brexit. Ça servait sans doute beaucoup plus ses intérêts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au 31 octobre, je pense que le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union européenne, même si Boris Johnson, il faut bien le savoir, il n'a pas toutes les clés en main, puisque quoi qu'il arrive, ce sont les députés britanniques qui votent au final. Donc si lui veut quand même le Brexit dur, si les députés disent non et veulent un accord, ça se fera pas. Voilà.
C'est quand même juste un mot sur le Brexit. Il faut que ça cesse parce que ça fait 3 ans que ça dure et qu'on sait pas où on va. Donc à un moment, il faut prendre la décision. Sur le plan politique, je trouve que c'est regrettable qu'un des pays de l'Union européenne s'en aille. Je pense que les gens n'ont pas perçu la dimension, les Britanniques n'ont pas perçu la dimension de ce que ça représentait, notamment la jeunesse. Elle n'a pas participé du tout au vote sur le Brexit. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui peut-être vont le plus être gênés par ce Brexit, où maintenant il va falloir pratiquement des passeports et des visas pour aller en Europe derrière. Donc c'est un peu leur univers qui se rétrécit à leur île. Et je trouve ça malheureux, un, pour la construction européenne, et deux, pour le peuple britannique.
Mais c'est ça, l'humain, quoi. La politique et l'humain, c'est... Tous les Anglais qui m'en parlent, ils sont dans une situation catastrophique.
Les Anglais, ce qu'ont demandé la nationalité française depuis.
Tout à fait. On va écouter, avant les prochains témoignages, un morceau que vous avez choisi, Christophe Préau.
Justement, ça tombe bien.
Oui, vous avez choisi quel morceau?
J'aime bien un groupe qui s'appelle The Clash, qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours, pour diverses raisons, parce qu'effectivement c'est une musique que j'apprécie, mais aussi parce que c'est un groupe engagé, une musique avec des textes politiques et sociaux plutôt engagés, et là Should I Stay, Should I Go, puisque ça me semblait assez
symbolique,
assez symbolique par rapport au Brexit.
On écoute tout de suite.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Oui, Merci pour cette musique. Ça fait plaisir un petit peu de musique. Ça détend un petit peu parce que là on devenait un peu sérieux, on était en train de se le dire et on se disait mais l'Europe c'est quand même bien. Hein. On n'oublie pas quand même, c'est l'Europe est une fête. Hein. On va passer tout de suite au prochain enregistrement, au témoignage de Ruben qui nous vient des Pays-Bas.
On était les premiers à voter pour l'Europe aux Pays-Bas, c'était déjà le jeudi, là où presque tous les pays ont voté le dimanche. Et aux Pays-Bas, c'était la gauche qui avait gagné, la partie du travail qu'on peut comparer au Labour en Angleterre ou la partie socialiste en France. Et c'est assez étonnant parce que cette même partie, la partie du travail aux Pays-Bas, avait terminé sixième dans les élections régionales, deux mois avant les élections pour l'Europe. Alors c'est assez étonnant pourquoi cette partie a gagné. Pour moi, il y a deux explications. On a d'abord le fait que leur leader, Frans Timmermans, qui veut devenir président de la Commission européenne, est quelqu'un qu'on connaît. Je pense que les gens connaissent vraiment personne pour qui voter en Europe. Et surtout, côté gauche, les gens sont plutôt pro-Europe. Et Timmermans, il incarne ça un petit peu. Mais ça veut rien dire pour pour la politique nationale, on va dire. Et aussi, c'était quand même un vote contre le populisme parce que pour les mêmes élections régionales, il y avait le Forum pour la démocratie, un parti nationaliste droite qui avait gagné. Et on a vu que ça a créé une vague de protestes aux Pays-Bas et on a cherché une partie pour s'unir. Je pense que c'est très important de se réaliser que la vote néerlandaise était plutôt un vote contre les autres et surtout aussi pour montrer que on a encore l'intérêt pour l'Europe, mais on ne sait pas exactement ce que ça représente. On a voté maintenant pour la personne qui incarne un peu l'Europe aux Pays-Bas, mais en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'on fait vraiment là-bas. Et c'est ça ce qui est inquiétant, je pense que aussi toute la préparation pour les élections était très très, tout était focalisé sur des sujets nationaux et je trouve ça dommage et oui, on va voir ce que ça va donner pour le futur.
Oui, donc du coup des sujets nationaux, mais on le disait un peu partout, oui. Donc aux Pays-Bas, en France, ailleurs.
On en parlait tout à l'heure, oui.
Juste un mot sur peut-être sur le score des partis aux Pays-Bas, puisque aucun parti dépasse les 20%. Hein, le parti travailliste, il fait 19%. Vous avez 5 partis au-dessus de 10%, dont les Verts qui font 10% et qui sont 5e aux Pays-Bas. Son nom a été évoqué durant le sonore, Frans Timmermans, que les Néerlandais, oui. Ne m'excusent pour l'accent, qui est candidat des socialistes pour la commission, pour la présidence de la Commission européenne. Il n'est pas le seul. Il y a Manfred Weber pour le PPE notamment. Il y a Margaret Vestager, pas officiellement pour le centre. Aujourd'hui, quel est le favori pour prendre la tête de la Commission européenne, messieurs?
Alors, là, c'est la course au chef.
Plutôt, je m'adresse aux journalistes, pour
c'est,
le coup. Oui.
C'est vrai que là, on est rentré dans la période dite de négociation, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont à prendre. Donc, le Parlement, la Commission, le Conseil de l'Européen, et puis aussi...
Le représentant pour la diplomatie.
Et puis aussi...
La
Banque Centrale Européenne. Donc, après, tout dépend un petit peu aussi déjà du jeu entre Français et Allemands, si les Français préfèrent là.
Non, parce que...
La BCE plutôt que la Commission, et si les Allemands...
Pourquoi ? Voilà. Parce qu'il y a une répartition en fonction des pays prédominants.
Il y a toujours une répartition un peu en fonction des pays. Alors d'abord, le couple franco-allemand gère un petit peu, enfin impacte beaucoup sur la vie politique.
Ça, c'est officiel
européenne.
Ou c'est officieux ?
Non, c'est très officiel.
Ah oui, d'accord.
Quand le couple franco-allemand va bien, généralement l'Union européenne va bien.
Ah.
Mais sur la Commission européenne, normalement, ça devrait être Manfred Weber, puisque c'est lui qui était tête de liste du parti en tête de ces élections européennes. Pourtant, il n'est pas assuré aujourd'hui d'être président de la Commission européenne. Pourquoi ?
Là, vous faites référence au système qu'on appelait le système des Spitzenkandidaten. Ouais. Mais en fait, dans les traités, il n'est pas inscrit que le chef du parti qui arrive en tête aux élections est automatiquement... président de la Commission. Il est simplement inscrit que le président de la Commission doit représenter les équilibres politiques et être dans la tendance politique du moment. Donc a priori, enfin, Manfred Weber ne rallie pas aujourd'hui tous les suffrages. Il y a une personne qui se détache et qui rallie plutôt les suffrages aujourd'hui, c'est Margaret Vestager, parce que c'est une femme, parce qu'elle a beaucoup et très bien travaillé dans son portefeuille qui est celui de la concurrence, et parce qu'elle est aussi socialiste et démocrate du parti. Et danoise. Voilà. Oui. Donc
ni allemande ni française. Voilà.
Et puis il y a aussi quelqu'un qui se dégage et qui pourrait être, mais tout dépend des jeux d'influence. Michel Barnier aussi, qui est français, comme vous le savez.
Michel.
Voilà. Juste pour rappeler, le chroniqueur se demandait justement, les Hollandais ont voté pour l'Europe, mais ils savent pas trop ce qui est derrière. Donc pour de la clarté, effectivement, il faudrait que ce principe du Spitzenkandidat soit respecté, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est présenté aux élections, qui était tête de liste de son parti et qui soit en capacité de créer une coalition, une majorité au Parlement européen, soit à la tête de la Commission européenne. Donc il y a 3 ou 4 partis européens qui sont capables d'imposer leur tête de liste. Et donc il faudrait que ce soit parmi ces 3 ou 4 personnes.
On va peut-être demander à un eurodéputé ce qu'il en pense. Est-ce que vous seriez ravi d'avoir Manfred Weber en président de la Commission européenne ?
Parce qu'il va voter.
Moi, je me moque des têtes. Et des noms.
Ce qui c'est important, c'est pour la politique.
Non. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Et c'est le contenu qui est rentré en négociation ces jours-ci. Et c'est une feuille de route qu'on demande. Et c'est en fonction de cette feuille de route, peu importe après, je ne dis pas peu importe la personne, mais on parlait de Timmermans dans le reportage tout à l'heure. Timmermans, c'est quand même le gars qui était contre l'interdiction des glyphosates et d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas très compatible, écolo, les positions qu'il a prises dans la précédente mandature. Donc vraiment, moi, ce qui m'importe, et c'est vraiment la position du groupe Vert Européen, c'est on va y aller avec un certain nombre de points non négociables sur l'écologie, sur la transition écologique et l'urgence écologique à mettre en œuvre des politiques dans ce pays. Et après, si entente, on verra comment se répartir les choses derrière. Et s'il n'y a pas d'entente là-dessus, ça pourrait être n'importe quel président.
Quels sont les points forts alors sur lesquels c'est non négociable ?
La transition, ça veut dire les transports, ça veut dire la taxation du kérosène, ça veut dire c'est la politique agricole et alimentaire commune. Et ça, c'est un point d'achoppement énorme parce que les intérêts des pays sont complètement divergents. Mm-hmm. C'est les traités de libre-échange. C'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive ou non dans une société, une transition écologique sur notre continent. Et Dieu sait que l'urgence est là aujourd'hui. Je vais pas la répéter. On a 10 ans devant nous pour changer les choses. C'est long de changer et ça doit commencer maintenant. Ça laisse 2 mandatures pour arriver au bout du cycle. Pour essayer d'espérer dans le respect des accords internationaux qui sont pris, l'accord de Paris, etc.
Et peut-être rappeler pour les auditeurs que vous avez aussi, vous, une candidate à la présidence de la Commission européenne.
Ska Keller.
Aujourd'hui, honnêtement, est-ce qu'elle a des chances de devenir présidente de la Commission européenne ?
Vous savez,
très honnêtement, soyez francs.
Qui est la région Nord-Pas-de-Calais, qui en 92, avec 6%, la présidente, Marie-Christine Blandin, est devenue présidente de la région Nord-Pas-de-Calais.
Pourquoi pas ?
Personne ne s'y attendait, et pas même elle. Donc, pourquoi pas ?
D'accord.
Soyons fous.
On écoute le prochain sonore avec Evelyne qui nous vient de Roumanie.
En Roumanie, les résultats des élections européennes sont plutôt encourageants. Même si, comme dans d'autres pays, la campagne a été essentiellement centrée autour des questions nationales, les résultats et la très forte mobilisation des diasporas ont montré la volonté des Roumains de lutter contre la corruption du gouvernement. Ainsi, le Parti social-démocrate, très critiqué par Bruxelles pour ses réformes de la justice, a été mise à mal, avec un résultat représentant une perte de plus de 10% par rapport au scrutin précédent. Le parti du président Klaus Iohannis, le Parti National Libéral, a gagné du terrain et le président se félicite de ses votes en faveur d'une Roumanie européenne. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en Roumanie, en même temps, en parallèle aux élections européennes, un référendum a été organisé à l'initiative du président et les Roumains ont été invités à répondre aux 2 questions suivantes. Approuvez-vous une interdiction des décrets d'urgence en matière de sanctions pénales? Et approuvez-vous une interdiction de toute amnistie et grâce pour faits de corruption? Même si c'est un référendum purement consultatif, il a une valeur symbolique très forte, il s'inscrit dans les mêmes efforts de lutte contre la corruption, de lutte pour la consolidation de l'état de droit et de lutte contre les pratiques de changement de loi de la justice par le gouvernement. La Roumanie a exercé la présidence du Conseil de l'Union européenne les 6 derniers mois et en septembre, des élections présidentielles seront organisées. C'est donc une année très importante et très chargée pour la politique roumaine.
Donc les préoccupations roumaines, si on entend Evelyne, c'est les problèmes de corruption et d'état de droit. Donc on est un peu loin des problèmes écologiques là. Est-ce que ça repose pas encore la question une nouvelle fois, se dire que ok d'accord, on veut faire de l'écologie, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui viennent avant, des choses qui viennent avant, par exemple avoir un état de droit et pas corrompu. C'est une question qu'on peut poser.
Eh oui, mais c'est vrai que c'était déjà là ce qui était dit tout à l'heure. C'est, on règle nos problèmes locaux, nationaux, avant d'envisager des politiques européennes. Mmh. Et c'est ce qui est traduit dans ce vote. On a des gouvernements corrompus et du coup, on a des élections qui sanctionnent ces gouvernements corrompus. Mais ça ne veut pas dire que c'est une adhésion ou pas. On oui. a voté contre quelque chose et c'est bien. C'est souvent le cas, malheureusement. Mmh.
J'avais une question peut-être, puisque vous disiez que les Européens de l'Est sont très attachés à l'Union européenne. Pourquoi ils se déplacent peu, finalement, aux élections européennes ? C'est assez contradictoire.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est dans des jeunes démocraties et qui fait qu'effectivement, il y a encore inscrit dans les générations que le fait d'aller voter, c'est peut-être pas... Ça pèsera pas fortement. Et puis parce qu'on est dans des pays qui, justement, on parle de corruption et certains doivent se dire, effectivement, de toute façon, ça changera pas. C'est les uns ou les autres. Et puis... Peut-être qu'il y a une mobilisation moins forte aussi des plus jeunes sur certains sujets. Voilà.
On passe au dernier sonore à écouter. C'est Dana, qui est ukrainienne, qu'on écoute.
Bonjour, Доброго дня. Alors, aujourd'hui, on va parler des élections. En effet, en Ukraine, il n'y avait pas des élections européennes, mais par contre, c'était les premières élections présidentielles après le Maïdan. Le lendemain... Après le premier tour qui a eu lieu le 31 mars, c'était le 1er avril, la journée internationale de l'humour. Et effectivement, les gens ils n'ont pas manqué à faire les blagues à ces propos. Même si les observateurs ont attesté le bon déroulement des élections, il y avait des situations très drôles. Par exemple, certains utilisateurs du réseau publiaient des photos des bulletins de vote qu'ils ont peints, avec des différentes images, avec des dessins divers. Comme ça, ils ont exprimé leur attitude à l'égard des candidats ou des élections générales. Dans la région de Lviv, il y avait un coffre-fort, donc l'urne où tu mets les bulletins, que la commission ne pouvait pas ouvrir, donc ils ont utilisé la scie pour l'ouvrir. Mais je vous assure qu'aucun des bulletins de vote n'a pas été endommagé. Il y avait une des électrices qui essayait de manger son bulletin et un autre qui a tenté de le voler et partir en courant. Il y a une personne qui a jeté son passeport dans l'urne et donc il a dû attendre la fermeture du bureau pour le récupérer. Mais pour certains, la plus grosse blague politique, c'était justement la déclaration de notre nouveau président Volodymyr Zelensky de participer au présidentiel. Mais les Ukrainiens ont porté soutien avec 73% de vote pour et ils ont choisi ce politicien anti-système en poursuivant la mode de leur choix. Notre président, donc, il incarne le rôle d'un humoriste, producteur, acteur, scénariste et réalisateur en même temps. Mais en tout cas, malgré le fait que nous ne pouvons pas voter aux européennes, les Ukrainiens se sentent de plus en plus européens et le gouvernement progresse activement dans l'adoption de nombreuses lois et réformes qui nous dirigent vers ce bel union des valeurs.
Et donc on est sorti un petit peu de l'Union européenne avec ce témoignage de Dana, mais c'est l'Europe quand même, ça pose la question des limites de l'Europe. On va peut-être pas se les poser maintenant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Nicolas, tu voulais réagir par rapport à ce témoignage.
Peut-être poser une question à Rémi Loverier et puis à Christophe Préau. Est-ce que vous pensez que le nouveau visage du Parlement européen, parce que quand on parle d'Ukraine, soyons francs, on parle évidemment de la Russie aussi, est-ce que vous pensez que ce nouveau Parlement européen pourrait permettre de créer une nouvelle relation avec la Russie, beaucoup moins tendue, puisqu'elle s'est tendue depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce que vous pensez que ce nouveau Parlement européen pourrait changer la donne, concrètement ?
Alors, concrètement, ça va peut-être être un petit peu compliqué, parce que les parlementaires européens, en matière de politique étrangère et de défense, n'ont quasiment aucun pouvoir. Et donc, pour que ça change les choses, il va falloir parler d'une seule voix. Et donc le Parlement européen, s'il est uni, peut avoir un rôle à jouer vis-à-vis des chefs d'État qui ont toujours les commandes. Donc il y a beaucoup d'espérance, en tout cas personnellement, mais ça va être compliqué.
Emmanuel Macron, cette semaine, dans une interview à la radio-télévision suisse, a dit qu'il fallait absolument discuter avec la Russie. Il semble plus ouvert que ses prédécesseurs sur le sujet pour pas la laisser se tourner vers la Chine. Est-ce que vous pensez que les politiques européens, les décideurs politiques européens sont dans la même optique ? par rapport à la Russie.
Au-delà, il y a la Russie, effectivement, mais pour l'Union européenne, il y a aussi un enjeu de souveraineté internationale qui fait que il y a un jeu de grande puissance entre les États-Unis, la Chine, la Russie, qui fait que l'Union européenne doit aussi être forte. Donc elle doit parler de toute façon avec tous ses interlocuteurs. Et la relation avec la Russie doit forcément être... elle doit forcément être bonne, parce que d'abord on a une frontière avec les Russes juste à côté, elle doit forcément être bonne. Mais il y a tout un jeu qui fait que on tient pas non plus toute.
C'est notre partenaire géographique le plus proche et c'est peut-être la relation la plus tendue depuis quelques années.
Les clés sont plutôt, à mon sens, entre les mains de Monsieur Poutine, hein, en fonction de ce que lui souhaitera aussi faire.
Très bien.
L'émission termine sur ces jolis mots.
On termine sur Poutine. Alors, le futur de l'Europe, c'est Vladimir Poutine. C'est ce qu'il fallait retenir. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il fallait retenir.
Justement, l'Europe, elle est belle aussi. Hein, et je pense pour tous les jeunes, Erasmus, c'est quand même super. Je pense que tous les étudiants qui vont en échange.
Alors, justement, c'était...
C'est la libre circulation, c'est la libre installation aussi, si demain on veut aller travailler dans un autre pays. Enfin, c'est plein de choses belles et superbes. Il y a de la politique aussi, mais c'est la politique qui fait tout ça.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que on avait une mission un petit peu particulière parce qu'on n'était que des hommes blancs français autour de la table, très diversité. Quoi. On était vraiment sur le thème de l'Europe diverse. Non, parce que d'habitude, l'Europe est une fête. C'est pas cette ambiance. C'était exceptionnel et c'était très bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à l'émission. Merci, Damien Carême. Merci Rémi Lauverrier. Et merci, Christophe Préau, de vous être prêté au jeu de cette émission. Merci, Nicolas Kirillovitz.
Kirillovitz.
Ah, je l'ai bien dit. Merci. Bravo. Merci Anthony pour avoir enregistré cette émission. Merci à Mafé pour le live. Merci bien sûr à l'Espace Grande Contrôle d'avoir accueilli l'émission. Vous pouvez retrouver l'émission L'Europe est une fête en podcast sur iTunes, Deezer, SoundCloud et même en Facebook Live presque tous les samedis à 17h. Ouais. Alors, d'habitude, je vous le dis, pour se dire au revoir, chaque chroniqueur dit au revoir dans sa propre langue. D'accord. Alors là, nos propres langues, ça va être un peu limité. Ce qu'on va faire, c'est que chacun choisit un pays dans lequel il sait dire au revoir autre que la France. Quels sont les pays que vous pouvez choisir?
Moi, je vais dire ciao.
Ciao. Alors, on va le dire tous en même temps, mais déjà, on choisit un pays. Rémi Lauverrier, vous choisirez?
Oui, je vais prendre l'Allemagne.
Très bien. L'Allemagne.
La Pologne.
La Pologne.
Et l'Espagne.
Et du coup, il me reste la France. Alors, on va faire à trois, je vous préviens. Un, deux, trois.
Adios.
Au revoir.